Chapitre 2. Quand Aminet entra dans le salon de sa belle-sœur, elle trouva des visites, comme le lui avait indiqué d'ailleurs la présence de deux paires de pantoufles toutes pareilles aux siennes qui se trouvaient devant la porte. Les deux dames, assises à ce moment sur les coussins, n'étaient rien moins que Bouboul Kanoum, Madame le Rossignol, et Loulou Kanoum, Madame la Perle, l'une troisième femme du gouverneur et l'autre seule et unique épouse du chef du clergé, le jeune et aimable Moula Sadek, l'amateur le plus éclairé de pâtisserie qui se trouva dans tout Damagan. Ces dames étaient jolies, l'une et l'autre, fort élégantes et très rieuses, et comme Zemrun Kanoun, de son côté, n'était porté à la mélancolie que lorsqu'on l'y obligeait en la contrariant, la conversation allait bon train. On parlait mode, nouvelles, ajustements, santé des enfants, singularité des époux, emportement même de ces messieurs, ce qui tient toujours une grande part dans les confidences féminines, comme étant le moyen le plus sûr de faire apprécier ces mérites si recherchés, et enfin les médisances, ce sel, ce poivre, ce piment, ce nec plus ultra des délices sociaux. Bref, tout ce qui peut se dire, et même, et surtout ce qui pourrait se taire, tout allait bon train, et c'était des éclats de rire qui ne finissaient que pour recommencer. Trois servantes, dont deux Belouches et une négresse, vêtues de soie et de cachemire, présentaient à ce moment des calioux d'or émaillé et garnis de pierreries, et ces dames fumaient à cœur joie quand la triste Aminée entra. D'ordinaire, elle n'était pas une associée indigne de pareille conférence, au contraire, elle y apportait une gaieté et un rire si frais, si joli, qu'on en avait fait des chansons qui se répétaient partout, le rire d'Aminée. Hélas, il ne s'agissait guère du rire d'Aminet aujourd'hui. La pauvre petite laissa tomber son manteau et son voile, baisa la main de sa belle-sœur, qui l'embrassa tendrement sur les yeux, et s'assit, après avoir salué, comme deux amis, les dames présentes. « Mon Dieu, ma fille !» s'écria Zemrud Kanoun, « qu'as-tu donc ? Les yeux rouges, as-tu pleuré par hasard? Serait-ce la faute de Kassem? Ah, ce cas, envoie-le-moi, je le remettrai dans le droit chemin. Ah, ces hommes, c'est ce que nous étions justement en train de dire. Mais console-toi, il ne faut pas abîmer tes beaux yeux. Abîmer ses yeux pour un mari, dit Loulou, la femme élégante du dignitaire ecclésiastique. Quelle folie! « À propos, cher Aminet, mon âme, mes yeux, peut-être pourrez-vous me raconter dans le détail ce qui est arrivé hier à Gulnar Kamoun avec son mari. Il paraît qu'il y a eu une scène épouvantable. »« Je n'en savais rien, » répondit bien bas Aminet, en s'essuyant les yeux et en étouffant un soupir. « Je connais l'histoire avec la dernière exactitude, » s'écria la compagne du gouverneur, qui avait de longs yeux noirs taillés en amande, sur les cils une bonne provision de surmette, ce qui lui donnait un éclat surnaturel. Il paraît que dans un moment d'épanchement, Seyd Hussein s'est avisé de vouloir contempler les oreilles de son épouse. « Quelle horreur !» s'écrièrent tout d'un coup Zemrud et Loulou. « Une grossièreté !» poursuivit Bouboul en levant les épaules et avec un accent de pruderie incomparable. « Mais bref, il l'a voulu, et bien que Gulmar se soit fort défendu et même fâché, Seyed Hussein a fini par lui déranger son jargat, si bien qu'il a aperçu le bout de l'oreille droite, et à cette oreille des boucles d'or et de saphir qu'il ne se souvient pas d'avoir donné. De la grande tapage, comme vous pouvez l'imaginer. » « Aussi Gulam Kadoun est d'une imprudence, » déclara Loulou. « Mais comment va-t-on porter de telles boucles d'oreilles quand on n'est pas sûr de la moralité de son mari? C'est jamais la mienne qui se permettrait. »« Gulnar, » répliqua Bouboul, se croyait à l'abri de tout, parce que, comme c'est l'usage, elle portait les autres boucles d'oreilles, celles qui étaient inoffensives, non à ses oreilles, mais attachées sur son jargate, absolument comme nous autres. À propos, interrompit Loulou, puisque nous parlons de mode. Ici, on apporta de nouveau les calioune et le thé, et Aminet espéra avec raison que les premiers étaient fumés et l'autre bu. La visite allait prendre fin bientôt, et tandis que chacune des belles personnes tenait sa tasse dans la main, Loulou, continuant son à propos, ben, puisque nous parlons de mode, disais-je, avez-vous vu cette nouvelle forme de veste que les Arméniens ont apportée de Téhéran ? Il paraît que toutes les femmes en raffolent, parce que c'est ce que les Européens mettent sous leurs habits. Ils appellent cela Iletke. Je m'en suis commandé trois. Ah, et moi, deux seulement, répliqua Boulboul. Un en drap d'or et l'autre en étoffe d'argent à fleurs rouges. C'est extrêmement commode pour les nourrissons. L'entretien se prolongea encore quelque temps sur ce ton, puis les deux dames prirent congé, embrassèrent Zemroud et Aminet, et se retirèrent, emmenant avec elles servantes, caliards, domestiques, non sans grand tapage, comme il convenait pour des personnes si considérables. Alors Aminet se trouva libre de raconter ce qu'elle avait sur le cœur. Elle le fit avec une passion extrême, et Zemroud, transporté d'indignation et de colère, et en même temps de curiosité et de crainte, pour un cas aussi surprenant, lui dit en prenant son manteau et son voile, « Reste ici, ma fille, je vais aller parler à Kassem, et je te promets bien. Enfin, reste ici, attends-moi, et sur toute chose, cesse de te désoler. Ce garçon est mon frère, mais je le regarde comme mon fils, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai marié. Ton père en a agi avec lui de la manière la plus généreuse, car les 200 tomans que Kassem a donné pour t'avoir, et dont, par parenthèse, mon mari avait prêté la moitié. Ton père les a employés entièrement à ton trousseau et quelque chose par-dessus. Va là, Bila, va là, nous allons voir de quel air au maître Vakassem va me répondre. Calme-toi, te dis-je, je suis sûr que tout cela ne signifie rien. » Là-dessus, Zemroun Kamoun, armée en guerre et s'étant bien enveloppée, ne prenant avec elle ni servante ni domestique, partit d'une telle façon qu'on ne saurait le comparer qu'à l'éclair, sillonnant un ciel d'orage et en annonçant la majestueuse horreur. Aminet resta assise sur le tapis dans un accablement profond, écoutant à peine la voix de l'espérance qui cherchait encore à éveiller un écho dans son cœur. Elle attendit 2 heures pleines. Au bout de ce temps, Zemroud revint. Elle ôta ses voiles, elle était décontenancée, pâle, et on voyait que la femme forte avait pleuré. Elle s'assit à côté d'Aminet et lui prit la main, et voyant que celle-ci ne pensait pas un mot, ne levait pas les yeux et regardait fixe devant elle, elle l'attira sur son cœur et en la couvrant de baisers, lui dit « Nous sommes bien malheureuses. » Elles étaient bien malheureuses en effet. Kassem avait été très doux pour sa sœur aînée, très déférent, mais il s'était montré inébranlable dans sa résolution de partir le lendemain, déclarant qu'il n'avait accordé ce retard qu'à l'amour tendre qu'il avait pour Aminet. Mais que, si on devait le tourmenter et le soumettre à des plaintes, que sa propre douleur lui rendait intolérable, il partirait le soir même. Et toutes les supplications, tous les raisonnements, tous les reproches de Zemroud n'avaient pu en obtenir autre chose. « Il est ensorcelé, ma chère âme, » dit Zemroud en finissant le récit de son expédition manquée, « ensorcelé par ce terrible magicien. » Les gens de cette sorte disposent d'un pouvoir irrésistible, et là où ils commandent, il est certain qu'il n'y a qu'à se soumettre. Qassem est au pouvoir de celui-ci. Il faut espérer, il faut croire même, que c'est pour son bien. Car d'après ce qu'il m'a raconté, le derviche paraît avoir les meilleures et les plus affectueuses attentions. C'est un homme pieux et incapable de faire le mal. Moi aussi, j'ai connu des magiciens. C'étaient les gens les plus vénérables du monde, des prodiges de science. Je te le répète, donc calme-toi. Il vaut mieux que ton mari fasse des choses grandes et puissantes sous la protection de l'Indien que si par exemple il s'en allait à la guerre, ou même la faveur du roi, que sa grandeur augmente et soit fortifiée, ne pourrait jamais l'empêcher de recevoir un mauvais coup. Ce genre de consolation prodiguée par Zemroud à sa petite belle-sœur valait beaucoup ou valait peu, il n'importe. Elle n'en avait pas d'autre à sa disposition, et elle en usa tant qu'elle put, le reproduisant sous toutes les formes et terminant toujours chaque démonstration par l'assurance ferme, par la promesse sous serment que Qassem ne resterait dans tous les cas pas plus d'un an absent, et qu'il n'était que raisonnable et naturel d'admettre qu'il reviendrait possesseur d'une fortune immense, qui les mettrait tous et toutes dans la famille en situation de se passer leur fantaisie. À la fin, Minet, ayant un peu pris sur elle, dit qu'elle voulait s'en aller et elle retourna au logis. Elle y trouva Qassem dans un état qui ne valait guère mieux que le sien. Au moment de quitter sa femme, sa maison, ses habitudes, son bonheur, son amour, l'enthousiasme avait baissé. La résolution restait parce qu'il ne pouvait l'arracher ni de son imagination ni de sa volonté, mais elle était voilée de noir et le cœur s'en donnait tant et plus de se tordre, de se plaindre, de gémir, de réclamer. Enfin, pour bien dire, Qassem était très malheureux, comme on l'est quand, placé entre le devoir et la passion, on se croit entraîné par le devoir. Il importe peu de rechercher ce que peut valoir toujours ce dernier mot. Qassem admettait que son devoir était de chercher de rejoindre le magicien. Il lui fallait se soumettre. Avec ce sentiment si fin, si tendre, si divin, qui appartient en tout pays aux femmes quand elles aiment et qui seul suffirait à en faire les êtres vraiment célestes de la création, Aminet comprit la lutte qui se soutenait dans l'âme de son mari et, instinctivement, évita ce qui pouvait le rendre plus difficile et plus cruel pour le patient. Peut-être, se dit-elle en elle-même, pourrais-je réussir à le garder auprès de moi 8 jours, 1 mois au plus? Mais comme il souffrirait, et à la fin, quoi, il voudrait encore s'en aller. Elle cesse de combattre et se montre résignée. Elle dit seulement, « Tu reviendras ?»« Oui, oui, je reviendrai, je te le jure, Aminet. Comment ne reviendrai-je pas ? Sois sûr que si tu ne devais plus me revoir, c'est qu'alors... » Elle lui mit la main sur la bouche. « Je te reverrai, » dit la meilleure des femmes en affermissant sa voix. « Assurément, je te reverrai. Pense à moi, n'est-ce pas ?»« Oui, j'y penserai souvent. Non, tiens, j'y penserai toujours. Oh, Aminet, mon Aminet, ma chérie, comment veux-tu que je fasse pour ne pas penser toujours à toi? Songe donc à ce que tu es pour moi. Est-ce que je ne le savais bien jusqu'à ce moment? Je n'avais jamais songé que je pouvais te perdre. Est-ce que je te perdrais? Non, tu ne me perdras pas. Je serai là, tranquille, chez ta sœur. J'aurai beaucoup de patience. J'aurai beaucoup de courage. Je suis sûr qu'il ne t'arrivera rien, Qassem. Mets encore une fois ta tête sur mes genoux. C'est ainsi que la nuit se passa entre le désespoir le plus poignant et les caresses les plus tendres, l'un consolant l'autre, et le plus souvent, c'était à Minet qui relevait la tête courageusement sous le mauvais traitement que leur infligeait le sort. Quand le jour parut, ce fut elle qui appela les domestiques et leur ordonna de lever les tapis, d'enfermer toutes choses dans les coffres, de vider la maison. Elle envoya chercher des mulets et on transporta le ménage chez Emlund Kavnum. Les gens du quartier, mis en éveil par ce mouvement, étaient sortis de leur maison comme une fourmilière. Ils se tenaient, qui sur le pas de sa porte, qui dans la rue, ou assis sur quelques auvents de boutique, sans compter ceux qui étaient montés sur leur terrasse. Il y avait foule. À Minet, quand elle vit qu'il ne restait rien au logis et que les quatre murs de chaque chambre étaient nus, s'enveloppa dans ses voiles et partit. Kassem la suivit, puis revint au bout d'une heure. Il était seul avec le petit esclave nègre. On l'attendit encore un peu. Alors l'esclave vint allumer un grand feu au milieu de la place, la plus vaste du quartier, et quand le bûcher flamba tout haut, Kassem parut dans la rue à son tour. Il avait la tête et le buste nus, les pieds et les jambes nus, et ne portait qu'un caleçon de toile blanche. Il tenait à la main les habits qu'il avait mis la veille, pantalon de soie rouge, colidien de drap d'Allemagne, gris, passementé de noir, jubbets de laine de vermane rouge à fleurs et bonnet de peau d'agneau très fine. Il marcha vers le bûcher. Il y déposa tous ses vêtements qui furent consumés sous ses yeux. Il faisait ainsi vœu de pauvreté et d'ascétisme. La multitude le regardait faire, elle était très émue. On l'aimait. Quoi d'étonnant, on l'avait connu tout petit. Il était jeune, il était beau. Jusque-là, il avait toujours été heureux, s'était montré obligeant pour les uns, très charitable pour les autres. Les femmes pleuraient. Quelques-unes criaient, agitant leurs bras et disant « Quel malheur, quel malheur !» Au fond, on était profondément édifiés. Aux yeux de ceux à qui les domestiques avaient expliqué l'affaire, Kassam était l'esclave dévoué de la science et du renoncement, et rien ne semblait plus beau. Quand le sacrifice fut fini, le nouveau derviche s'écria d'une voix stridente à la façon de ses confrères « Ouh !» C'est-à-dire lui, l'être par excellence, celui qui contient en son sein et y réserve tout ce qui est vivant, Dieu. Les bénédictions éclatèrent. Que Dieu le garde, que les saints imams veillent sur lui. Ô Dieu, conservez-le, que tous les prophètes l'accompagnent. Kassem remercia d'un signe de tête et sortit de la place. Au moment où il atteignait la rue qui menait hors de la ville, un vieux bacal ou épicier lui tendit une petite coupe en cuivre en le priant de l'accepter comme souvenir de lui, ce qu'il fit. Puis il avança de quelques pas et l'enfant du menuisier, qui avait 5 ans et qu'il avait bien souvent caressé, marcha vers lui, envoyé par son père et traînant un fort bâton de voyage. Kassem le prit encore. Mais sa fermeté l'abandonna un instant. Il ne put retenir quelques sanglots et saisit convulsivement l'enfant qu'il pressa dans son bras. C'était l'amer souvenir de ce qu'il perdait. Il se remit pourtant assez à temps et s'étant éloigné à grands pas, il se trouva bientôt hors de la ville, marchant dans la direction de l'est, c'est-à-dire vers le Khorasan, où il sentait que l'Indien l'attendait et l'appelait. Aussitôt qu'il se trouva dans le désert, cheminant ainsi et frappant de son bâton les cailloux du chemin, Il se trouva libre dans le vaste monde, et son cœur se calma. Son esprit s'exalta, il se vit déjà en pensée, maître et maître absolu de tous les glorieux secrets dont l'Indien lui avait annoncé et promis la révélation. Il n'y avait rien de bas ni de cupide dans son enthousiasme. Ce qu'il voulait, ce n'était pas le pouvoir de courber les hommes sous la puissance des prestiges, et encore moins d'avoir, par la transmutation des métaux, la richesse universelle. Il voulait la sagesse et la pénétration dans les plus augustes mystères de la nature. Il se voyait d'avance transfiguré au-dessus des désirs, au-dessus des besoins. Il se voyait comme un ascète auquel rien ne manque des richesses morales et des perfections intellectuelles, et qui, placé par sa science et son dédain absolu des choses terrestres dans le sein même de la divinité, devient ainsi copartageant d'une félicité sans limite. Pour en arriver à ce point, il avait craint de bien grands combats, des luttes terribles contre les affections mondaines. Mais pas du tout. Lui-même, il s'étonnait maintenant de la facilité avec laquelle il s'était séparé d'Aminet, que la veille encore il idolâtrait, et en se trouvant ainsi, le cœur libre et léger, presque indifférent. À la perte qu'il venait de s'infliger, il reconnaissait avec admiration la profonde sagesse du derviche indien. Celui-ci, lorsque Cassem avait insisté sur l'impossibilité de se séparer de sa jeune femme, qui avait prédit absolument ce qui arriverait de l'indifférence qu'il ressentait à cette heure. « Les passions humaines, ainsi s'était exprimé le sage, ne sont nullement si fortes ni si dures à briser que le commun des hommes se l'imagine. Inépuisables dans leur essence, elles n'ont qu'un semblant de puissance, et quand on met violemment le pied dessus, elles gémissent d'abord, puis se taisent, et comme des ombres qu'elles sont, finissent bientôt par s'anéantir devant la volonté inexorable. » Qui en doute? Les âmes faibles? Mais nous, qui sommes faits pour la domination du monde, des autres hommes et surtout de nous-mêmes, nous savons qu'il en est ainsi. Quittez votre maison, partez, et votre tête, débarrassée de soucis nuisibles, ne sera pas plutôt dans l'air libre que ne vous étonnerez des craintes dont votre imagination voit en ce moment les fantômes et qui n'oseront même pas vous assaillir. Et il en était ainsi. Cassem ne pensait à Aminet que comme un rêve lointain et qui n'a plus d'action sur l'esprit, et tout entier, comme on vient de le voir, à la dévotion de ses idées immenses, il lui semblait flotter sur leurs ailes. Il se reconnaissait calme et heureux. 8 jours se passèrent ainsi. Chaque soir, il entrait dans un village et s'asseyait sous l'arbre qui masquait le milieu de la place principale. Les plus âgés des paysans, le moulla, quelquefois un ou plusieurs autres derviches, des passants comme lui, venaient se mettre à ses côtés, et une partie de la nuit s'écoulait dans les entretiens de la nature la plus diverse. Tantôt c'était des récits de voyage, tantôt des récits de bataille. Souvent, les questions les plus ardues de la métaphysique étaient agitées par des cerveaux rustiques, comme il est d'usage dans tout l'Orient, et on écoutait volontiers les observations de Cassem, car on s'apercevait qu'il avait étudié. Quant aux choses nécessaires de la vie, il trouvait partout aisément une natte pour se coucher et sa part de pilau. Il s'était informé à plusieurs reprises de celui qu'il allait rejoindre. On l'avait vu passer, il pensait que l'Indien, ayant sur lui peu d'avance, il rejoindrait aisément. Le 9e jour du voyage, il s'avançait comme à l'ordinaire d'un pas allègre et regardait sans ennui et sans fatigue l'étendue infinie du désert pierreux, ondulé, coupé de ravins, de rochers, de mamelons, bordé bien loin à l'horizon de 2 rangées de montagnes magnifiques, colorées comme des pierreries par les jeux de la lumière, quand il sentit au fond de son âme une compression inattendue, une émotion spontanée, une douleur, un appel. Son âme, se tournant pour ainsi dire sur elle-même, lui dit « Aminée !» Elle l'avait dit tout bas. Il l'entendit pourtant, et avec lui son cœur l'entendit, et avec son cœur toutes les fibres de son être et tous les échos qui étaient dans sa mémoire, dans sa sensibilité, dans sa raison, dans son imagination, dans sa pensée. Tout cela se réveillant, se mit à crier avec passion « Aminée !» C'était comme des enfants qui demandent leur mère, comme devaient être les malheureux submergés dans les flots du déluge, quand ils levaient leurs bras au ciel et pleuraient en disant « Sauvez-nous !» Il fut bien surpris, Kassem, il fut bien surpris. Il croyait que tout le passé avait disparu, pas du tout. Le passé se montrait droit devant lui, bruyant, dominateur, réclamant son bien, sa proie, réclamant lui, Kassem. Et il entendait comme un murmure menaçant. « Qu'as-tu à faire avec la science? Que veux-tu de la puissance souveraine? Que t'importe la magie et la domination des mondes? Tu appartiens à l'amour, tu es l'esclave de l'amour. Esclave échappé de l'amour, reviens à ton maître. » Et comme Kassem continuait sa route tête basse, la compagne presque inséparable d'un amour profond, sa compagne vengeresse l'atteignit, et une tristesse irrésistible s'empara de lui, absolument comme l'obscurité nocturne envahit le soir la campagne. Le jeune homme avait beau se débattre, il était pris, il était repris. Il avait cru que ce n'était rien que d'aimer Aminet et de la quitter, mais l'amour s'était joué de lui. Il se répétait « La passion n'est rien, qu'on la regarde en face et elle tombe. » Il la regardait bien en face, elle ne tombait pas. Elle le maîtrisait, et c'était lui qui se sentait faiblir, 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 et qui se prosternait. Il voulait la chasser, mais qui était le maître en lui-même? L'amour ou lui? C'était l'amour. Et l'amour répétait sans se lasser « Aminet !» Et tout dans l'être entier du pauvre Kassem recommençait et disait « Aminet !» Et cette voix, et ces voix, suppliantes, irritées, volontaires, enfin toutes puissantes, ne s'arrêtaient plus. Et Kassem n'entendit plus rien en lui-même que ces seuls mots « Aminet, mon Aminet !» Que faire? Ce qu'il fit, il tint bon et continua à marcher. Il allait devant lui. Il avait perdu tout son entrain, toute son exaltation, toutes ses espérances et même le goût de ses espérances, et il rongeait l'amertume d'un profond et irrémédiable chagrin. À chaque pas, il sentait qu'il s'éloignait, non de son bonheur, mais de la source de sa vie. Son existence était plus lourde, plus étouffée, plus pénible, plus combattue, moins précieuse, et donnait moins de désir de la garder à celui qui la traînait. Il marchait toutefois, le pauvre amant. « Je ne peux pas retourner, j'ai promis, j'ai fait vœu de rejoindre l'Indien. Comment ne pas savoir ses secrets ? « Oh, Aminet, mon Aminet, ma chère, ma bien-aimée Aminet !» C'est grand dommage que les hommes qui ont beaucoup d'imagination et de cœur ne soient pas mis par la destinée à ce régime de ne vouloir qu'une seule chose à la fois, comme tout irait bien pour eux, comme ils se donneraient libéralement, entièrement, sans réserve, sans scrupule et sans souci, à la passion unique qui les prendrait. Malheureusement, le ciel leur impose toujours plusieurs tâches. Sans doute parce qu'ils voient plus et mieux que les autres, ils ont laissé leurs pensées entrer en bien des endroits. Ils aiment ceci, ils aiment cela, Ils veulent, comme Kassem, posséder les secrets ineffables, et comme lui, ils aiment une femme en même temps qu'ils aiment la science, et ne peuvent pas aimer avec modération, avec calme, ce qui arrangerait tout. Non, il faut pour leur malheur que les gens comme Kassem ne sachent rien faire à demi et demandent toujours d'eux-mêmes l'absolu en beaucoup de sens. Il leur arrive d'être à peu près toujours profondément malheureux par l'impuissance d'atteindre tout à la fois. Si au moins il avait eu cette confiance que sa sœur Zemrud s'était efforcée d'inspirer à Aminet, revenir dans un an, dans deux ans. Mais non, il ne pouvait pas admettre cette conciliation possible. Il savait qu'une fois, entre les mains du derviche indien, il pratiquerait pour toujours cette règle de conduite. La science est longue et la vie est courte. C'en était donc fait de ces images que le passé lui montrait. Sa félicité était éteinte. « Je deviendrai vieux à la fin, se disait-il. Je deviendrai vieux, j'oublierai Aminet. » Cette idée lui fit plus de mal que tout le reste à la fois. Il aimait mieux souffrir, il aimait mieux se sentir torturé par la douleur jusqu'à la mort. Il ne voulait pas oublier. C'était se renoncer soi-même, s'anéantir, et faire place à un nouveau Kassem qu'il ne connaissait pas et haïssait profondément. Il essaya de se calmer par la pensée des belles choses qu'il allait apprendre et des merveilles que chaque jour il lui serait donné de contempler et qui surpassent de beaucoup, ajoutait-il avec conviction, la magnificence des choses terrestres, les plus éclatantes et même, se dit-il tout bas, la beauté d'Aminet. Cette suggestion de son esprit lui fit horreur, et une fois s'éleva dans son âme, qui répliqua allègrement « Et la tendresse d'Aminet, y a-t-il quelque chose aussi dans le plus haut des cieux qui la dépasse en valeur ?» Kassem était donc aussi complètement malheureux qu'un homme peut l'être, aussi abattu, aussi triste. Il faisait des vœux ardents pour rencontrer le plus tôt possible derviche, car il lui prenait de tels découragements que par intervalles, il se laissait tomber sur la terre et s'abandonnait à sangloter. « Quand il sera avec moi, se dit-il, je serai distrait, je penserai à ce qu'il me dira. Il me ramènera à la contemplation auguste de la vérité. Je ne serai pas heureux, mais je retrouverai du courage, car il faut que j'en aie. » Mon sort est de servir sans grand dessein de mon maître. Je subis mon sort. Au fond, il n'avait plus rien au monde qui l'attachait. Tiré entre deux passions, il ne souhaitait plus, tant il souffrait, que d'obtenir un moment de repos et d'apprendre ce que c'était que le calme et de savourer la paix. À mesure que les jours passaient, il en est arrivé à ce point de ne plus même savoir ce qui pourrait le rendre heureux dans ce monde, tant il lui semblait ne rêver que des choses impossibles. Aminet, elle était si loin. Elle s'éloignait tous les jours. Il l'avait perdue. Cette image idolâtrée était noyée dans ses larmes. Il ne la voyait pas bien. À force de la regretter, de la désirer, de l'appeler, de pleurer, de ne pouvoir l'atteindre, elle lui semblait ne plus exister dans le monde où il était lui-même, ne pas avoir de réalité sur la terre. Il n'osait plus croire à la possibilité de la rejoindre jamais, et quant à l'amour de la science, première unique cause de son chagrin, il n'était pas bien sûr de le ressentir encore. Mais sur ce point-là, il se trompait. La curiosité poignante dont les paroles du derviche l'avaient fait devenir l'esclave le tenait en réalité plus serré qu'il ne croyait. Il ne sentait pas bien pourquoi, dans son isolement, dans son abandon, l'amour irrité et souffrant ne lui ménageait pas les peines. Et cependant, il aurait dû comprendre que cet amour si fort pour le torturer n'était-ce pas seulement absolument victorieux. Car après tout, malgré tout, Cassem, transpercé par cet aiguillon, se rebroussait pas chemin. Il marchait, mais non pas vers Aminet, il marchait pour retrouver le derviche, et il semblait avoir au cou une chaîne qui le tirait. Cette chaîne, c'était son kismet, sa part. Il s'était traîné malgré lui, malgré ses sentiments, ses désirs, son cœur, sa passion, tout. Il marchait cependant et ne pouvait s'en défendre. Ce qui était plus étrange, c'est qu'au fond, il était loin de savoir ce qu'il allait chercher, et encore moins ce qu'il prétendait obtenir. L'Indien lui avait seulement prouvé toute sa puissance et assuré qu'il avait besoin de lui. Sa tête excitée, son imagination subitement embrasée, faisait, disait, le reste. Il voulait voir, il voulait servir. Il entrevoyait vaguement des hauteurs et des profondeurs où planait le vertige. Il voulait irrésistiblement se jeter dans les bras au cou de ce vertige. Génie gigantesque dont les regards fixés sur ceux de son âme le fascinaient. Et une fois, dans ce giron terrible, il ne savait pas ce qui allait lui arriver, mais il ne cherchait pas même à le pressentir. C'était en vérité le vertige auquel il en voulait. Je ne sais pas si l'amour passionné peut jamais accepter qu'une autre passion soit pour lui une digne rivale. Mais s'il en est une à laquelle il soit disposé à accéder, ou du moins à laisser prendre ce titre sans s'indigner par trop, il semble que ce doit être celle-là même qui étreignait Cassem dans ses bras convulsifs. Exaltation pour exaltation, frénésie pour frénésie, celle de l'une vaut celle de l'autre. Il y a de part et d'autre autant d'abnégation, autant de discernement, peut-être autant d'aveuglement. Et si l'amour peut se vanter d'emporter au-delà des vulgarités de la terre l'âme qu'il transporte dans les plaines azurées du désir, sa rivale, celle-là précisément, qui tenait l'âme de Cassem en même temps que l'amour, a le droit de répondre d'une manière assurée qu'elle n'exerce pas un pouvoir dirigé vers des buts moins sublimes. Ainsi le malheureux amant parcourait les campagnes caillouteuses, brûlées d'un soleil inexorable, vides de tout ce qui ressemblait à de la végétation, ayant toujours devant ses yeux distraits des horizons dont les cercles étaient immenses et s'allongeaient sans cesse. Il s'avançait et il souffrait et il pleurait et il se sentait mourir. Et pourtant, il marchait. Il avait beau faire du chemin, il ne parvenait pas à atteindre son maître. Depuis 15 jours déjà, il avait perdu ses traces. Il avait interrogé, il interrogeait les gens des villages, les voyageurs. Personne n'avait vu l'Indien. On ne le connaissait pas. Sans doute Cassem avait pris à un certain moment une autre direction, ce qui n'est pas malaisé dans ces contrées où il n'existe à proprement parler aucune route. Mais Cassem ne put pas s'empêcher de reconnaître dans cette circonstance la puissance de son kismet. Si j'avais rencontré mon maître, se disait-il avec amertume, dans les premiers jours où la douleur m'a assailli, je n'aurais sans doute pas eu la force de la lui cracher. Il m'aurait certainement rendu repris, et je n'aurais rien gagné à cette confidence imprudente que des reproches constants, et peut-être... Quoi, peut-être... Bien certainement une défiance, qui, sans me rendre à Minet, m'aurait sans doute tenu bien loin pendant des années du sanctuaire de la science, dont j'aurais été déclaré indigne. Maintenant, je ne suis plus maître de moi, parce que, beaucoup plus malheureux ayant touché le fond de mon infortune, j'y suis comme prosterné et je ne songe même pas à m'en retirer jamais. Non, je ne dirai pas un mot à l'Indien. Je ne lui montrerai pas mon secret. Il ne pourrait le comprendre. C'est une âme dure et fermée à tout ce qui n'est pas la sublimité qu'il recherche. Il est déjà Dieu, moi, hélas, hélas, que suis-je, oh, hélas, que suis-je ? Qassem traversa bien des pays, des lieux déserts, des lieux habités. Il fut ici humainement reçu, ailleurs mal. Il entra dans des villes. Il parcourut les rues de Hérat et ensuite celles de la grande Kaboul. Mais il était à tout d'une indifférence profonde. En réalité, on ne pouvait pas dire qu'il vécut. La double exaltation qui entraînait et déchirait son être ne le laissait pas un moment tomber au niveau des intérêts communs. Il voyageait, mais il rêvait et ne voyait que ses rêves. C'était merveille qu'il touchât la terre du pied, car il n'était pas du tout sur la terre. Quand il eut atteint Kaboul, sans s'arrêter nullement, comme je viens de le dire, à visiter les singularités de cette ville fameuse, qui a, comme on le sait, des maisons construites en pierre et à plusieurs étages, il s'empressa d'en partir, et après quelques journées, il arriva aux cavernes de Mabia où il était certain de trouver le derviche. En effet, en entrant dans une de ces grottes, après en avoir visité deux ou trois, il aperçut son maître assis sur une pierre et traçant avec le bout de son bâton des lignes dont les combinaisons savantes annonçaient un travail divinatoire. Sans tourner la tête, l'Indien s'écria de la voix mélodieuse qui était si remarquable chez lui. « Dieu soit loué, très haut, il a donné à ses serviteurs les moyens de n'être jamais surpris. Approche, mon fils. C'est précisément à ce moment du jour que tu devrais arriver. Tu arrives, te voilà. Je loue ton zèle dont la pureté immense m'est garantie. Je loue l'élévation de tes sentiments et de ton cœur. Mes calculs me les démontrent, et je n'en puis pas douter. De toi, je ne saurais attendre que tout bien, toute vertu, tout secours. Et cependant, je le sais comme d'inexplicables obstacles s'élèvent devant mes travaux. » Kassem s'avança modestement et baisa la main du sage. Mais celui-ci, concentré dans ses réflexions, ne leva pas même les yeux sur lui et resta, contemplant avec fixité les combinaisons de lignes qu'il avait tracées sur le sable et qu'en réfléchissant il modifiait. Le jeune homme le regardait avec une sorte de bonheur mélancolique. Il ne se sentait plus seul. Il était près d'un être qui, à sa façon, l'aimait, qui faisait cas de lui, pour lequel il était quelque chose et qui comptait sur lui. Il eût bien volontiers embrassé le derviche. Il eût voulu se jeter à son cou, le presser contre son cœur dolent. Mais il n'y avait pas d'apparence que rien de semblable fût possible. Kassem écarta ses idées presque en souriant de lui-même. Il se contenta de regarder silencieusement son maître avec une tendre affection, sans chercher à l'interrompre dans les méditations que celui-ci poursuivait et dont, sans les comprendre, il admirait la profondeur. Enfin, pourtant, l'Indien releva la tête et contempla fixement son compagnon. « L'heure est venue, dit-il. Nous sommes à l'endroit fixé. Nous allons commencer notre travail, espérons tout, quoi qu'il en soit. Que cherchez-vous ? Lui dit Cassem. Qu'attendez-vous ? Que voulez-vous ?
Je ne sais pas, répondit l'Indien. Ce que je veux, c'est ce que je ne connais pas. Ce que je connais est immense, il me faut le par-delà, il me faut le dernier mot. Quand je l'aurai, tu le partageras, et sans avoir passé par les routes innombrables que j'ai parcourues, tu auras tout sans peine, sans mes angoisses, sans mes chagrins, sans mes doutes, sans mes désespoirs. Comprends-tu ? Es-tu heureux ?
Cassem tressaillit. Sans désespoir, se dit-il en lui-même, est-ce bien vrai ? N'aurais-je pas payé autant que lui ? Cependant, il se sentit entraîné par les paroles de son maître. Son cœur se ranima et bondit. Il espéra de son côté. Il touchait à un début de sa vie. Un instant, il oublia l'autre. « Allons !» s'écria-t-il avec énergie. « Marchons ! Je vous suis, je suis prêt !»«
Tu n'as pas peur ?» murmura le derviche.
« De rien au monde !» répartit Cassem. En vérité, la vie était de toute chose, celle à laquelle il tenait le moins. Le derviche se leva et marcha dans la grotte. Cassem le suivait. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la terre. Bientôt, la clarté du jour les abandonna. Ils s'avancèrent dans le crépuscule, puis bientôt dans les ténèbres. Ils ne prononçaient un mot ni l'un ni l'autre. Au bout de quelque temps, Cassem sentit sous ses mains portées en avant la roche vive et il s'aperçut que le derviche la tâtait de ses doigts. Autour d'eux s'accumulaient des blocs de pierre jetés par des éboulements souterrains et qu'ils avaient escaladés. Le derviche soupirait profondément, prenait haleine et recommençait à soupirer. Cassem se rendit compte que son maître cherchait à déranger les roches. Tout à coup, il se sentit pris fortement par le poignet et le derviche, le traînant violemment en arrière, le ramena dans un endroit où passait une bande de jours.
« Il y a quelque chose en toi, s'écria-t-il, qui nous empêche de réussir. Je le vois maintenant, je le sais, j'en suis sûr. » Tu es honnête, tu es dévoué, tu es bon et fidèle, mais il y a quelque chose, je ne sais quoi. Tu n'es pas tout entier à l'œuvre sainte, parle, avoue.
C'est vrai, répondit Cassem en tremblant, c'est vrai. Pardonnez-moi, je ne suis pas tel que je devrais.
Mais qu'y a-t-il ? S'écria le derviche en serrant les dents. Ne me cache rien, mon fils. « Il faut que je sache tout pour y porter remède. N'aie pas peur, parle !»
Cassem hésita un moment. Il était devenu tout pâle. Il comprenait qu'il ne fallait pas hésiter. Il n'était pas là en présence du monde, mais en présence d'un redoutable infini. « J'aime, » dit-il.
« Quoi ?»«
Aminet ? Oh, malheureux !» L'Indien se tordit les mains et resta comme absorbé dans une douleur qui ne trouvait pas de parole. Enfin, il fit un effort.
« Tu ne saurais me servir à grand-chose, » dit-il. « Ton bon vouloir est paralysé. Il faut ici une âme libre. La tienne ne l'est pas. Cependant, tu es bien pur de tout mal. Tu étais celui qu'il me fallait. »
Tu peux encore quelque chose. Moi, je ne reculerai pas. J'aurai tout, j'aurai ce que je veux, mais à quel prix ?
Pour toi, tu n'auras rien, rien, entends-tu ? Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la tienne.
Oh, une femme, une femme. Maudites soient les femmes.
C'est la ruine, c'est le fléau irrésistible, c'est la perte. Marchons pourtant. Retournons, dans un quart d'heure, il serait trop tard. » Comme il achevait ces derniers mots, une voix s'écria à l'entrée de la caverne. « Viens, Kassem, viens !» Kassem frissonna de tous ses membres. Il lui sembla reconnaître cette voix. Mais l'Indien le saisit avec force et l'entraînant moitié contraint lui cria « N'écoute pas ou tout est perdu !» La voix se fit entendre de nouveau. « Viens, Kassem, viens !» Kassem devint comme fou. Il reconnaissait tout à fait la voix, mais son vieux maître l'entraînait toujours et il lui criait « Ne le retourne pas, n'écoute pas, suis-moi. Je sais que je vais mourir, mais au moins, qu'en mourant, je trouve. » Kassem se laissait emporter. Il allait, il était traîné, mais il ne résistait pas. Son affection pour son maître, une curiosité fébrile, furieuse, le dominait. Il savait qu'il appelait. Il n'avait plus d'autre volonté que de courir au-devant du terrible mystère. Tout à coup, il se trouva contre la roche, à l'endroit même où, quelques instants auparavant, ses mains avaient touché. « Mets-toi là !» dit l'Indien en le poussant dans le fond d'une sorte d'anfractuosité. « Là, là, bien !» Tu risques moins, et maintenant je le sais, je le sens, je vais tout savoir. » Kassem l'entendit de nouveau gémir, pousser, tirer, frapper, et en même temps ses cheveux se dressèrent d'horreur, car le derviche prononçait dans une langue absolument inconnue des formules gutturales dont la puissance était certainement irrésistible. Soudain, un fracas épouvantable se fit entendre dans la grotte. Kassem sentit les pierres s'agiter et la terre vaciller sous ses pieds. Les rochers glissèrent sous ses mains. La lumière entra de toutes parts. Un éboulement épouvantable venait d'ouvrir la voûte. Il regarda. Il ne vit plus le derviche. Et à la place où ce sage et tout-puissant magicien avait dû être un instant auparavant, s'élevait un amoncellement de débris énormes que toutes les forces humaines eussent été impuissantes à soulever de leur place. Mais à l'entrée de la caverne, désormais inondée de la lumière du jour, Kassem vit Aminet, pâle, pantelante, et qui lui tendait les bras. Il courut à elle, il l'embrassa, il la contempla. C'était bien elle. Elle n'avait pas eu le courage de l'attendre. Elle avait marché après lui, elle l'avait suivi. Elle le retrouvait, elle le garda.